Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes et comme chaque premier tumulte de chaque mois, Xavier nous présentera sa chronique lunatique. Puis dans 30 minutes, nous recevrons Stéphane Véru. Nous parlerons avec lui de sa nouvelle création « Rock Never Sleeps », mon histoire du rock à moi, qui sera présentée au Théâtre d'Arras les 3, 4 et 5 décembre. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1019. Jean au micro, salut. Musique pour commencer avec Vic Chestnut, extrait de son nouvel album At the Cut. I Rachita. Et juste après, ce sera la chronique lunatique de Xavier. Chaque premier tumulte de chaque mois, Xavier nous présente sa chronique lunatique.
Ah, le mois de décembre et ses fêtes de fin d'année. Période heureuse qui réconcilie enfin les cubénis et les marchands du temple. Apogée annuelle de la surconsommation de trucs plus ou moins inutiles et chers, orgie de foie d'animaux malades et de volailles victimes de notre gourmandise d'occidentaux, toujours plus obèses. Bon, vous l'aurez deviné, monsieur Tumultini, je ne suis pas vraiment fan de cette période où faire une course en ville vous donne envie de trucider vos semblables. Ils vous bousculent avec leurs gros paquets, vous marchent sur les pieds et vous font subir les hurlements de leurs marmots rendus débiles par le gros rougeau barbu. Je sais que nos auditeurs m'approuvent secrètement, et comme le chroniqueur lunatique que je suis adore rendre service et être dans l'air du temps, je vais aujourd'hui leur proposer une chronique idée cadeau qui pourra vous éviter, leur éviter, de se sentir obligé d'acheter au dernier moment une connerie inutile pour leurs proches. Cette idée cadeau, c'est un bouquin. une histoire populaire de l'Empire américain. Adaptation en bande dessinée du best-seller d'Howard Zinn. C'est un cadeau vachement utile pour les paresseux comme moi qui avaient justement eu la flemme de le lire, ce best-seller. Zinn adopte tout au long de cet ouvrage une démarche originale et d'une honnêteté intellectuelle qui fait toujours défaut aux historiens officiels. Ces derniers se réclament d'une objectivité scientifique parfaite, mais ils défendent toujours les intérêts des puissants en présentant l'histoire comme un mauvais film qu'il faudrait se contenter de regarder en spectateur. Ces historiens, qui n'ont rien compris à l'histoire, se gardent bien d'établir des liens entre passé, présent et avenir, de peur que le peuple comprenne que ces défaites ne sont pas des fatalités. Howard Zinn, lui, ne cache pas son engagement progressiste et radical. Il nous explique qui il est et d'où il vient, permettant ainsi au lecteur de comprendre qu'un travail sur l'histoire n'est jamais neutre, et que la première condition d'une objectivité réelle est de ne pas la revendiquer. Zinn a grandi à Brooklyn, dans une famille juive immigrée pauvre. Il comprendra en voyant trimer son père que le mythe selon lequel, quand on travaille dur, on finit toujours par réussir, est un mensonge répété par ceux qui travaillent le moins, les financiers et les politiciens. Quelques coups de matraque reçus pendant une manifestation contre le régime d'Hitler par le jeune et libéral Howard Zinn feront de lui un radical. Son engagement sera en premier lieu professionnel, puisqu'il devient un des rares historiens américains à oser présenter son pays comme un empire qui a toujours cherché à préserver les intérêts de son élite en détournant l'attention de son peuple vers des ennemis étrangers ou en s'acharnant à mater l'ennemi intérieur. Une histoire populaire de l'Empire américain revient sur les pires actes des États-Unis depuis la fin du génocide indien qui scella en 1890 la fin de la conquête de leur territoire. À partir de cette date, les États-Unis se sont tournés vers l'extérieur à coups d'interventions directes ou secrètes, de guerres, de soutien à des régimes totalitaires. L'auteur part de la guerre contre l'Espagne pour récupérer Cuba et va jusqu'à une guerre qui fait toujours rage au moment où je vous parle, la guerre d'Irak. Entre ces deux conflits, distants d'un siècle, il rappelle que l'impérialisme américain a aussi ravagé les Philippines, le Vietnam, la quasi-totalité des pays d'Amérique latine, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et j'en passe. Mais cette politique extérieure agressive impose également de réduire au silence les oppositions intérieures. Et les dirigeants des États-Unis n'ont pas été plus tendres avec leurs compatriotes anarchistes ou communistes, indiens, noirs, militants des droits civiques ou simplement progressistes. Howard Zinn prend pourtant bien soin de montrer que les États-Unis ne se résument pas à cette légende noire. Il retrace aussi dans son livre les épopées de toutes les résistances nord-américaines, et elles sont nombreuses, résistances menées par des Américains de tous horizons. La défense des Indiens, la critique de l'impérialisme, les mouvements pacifistes qui ont fleuri à l'occasion de chaque conflit auquel prenaient ou prend part les États-Unis, les mouvements politico-culturels du jazz, du rhythm and blues, du rock and roll, le combat pour les droits civiques et tant d'autres. La conclusion d'Howard Zinn à la fin de son bouquin est plutôt réconfortante, en ces temps de cynisme, de résignation et en plus de météo pourrie. Je cite... Avoir de l'espoir dans les mauvaises périodes n'est pas juste bêtement romantique. C'est fondé sur le fait que l'histoire humaine n'est pas seulement une histoire de cruauté, mais aussi de courage et de bienveillance. Alors voilà, monsieur Tumultini, je ne sais pas si vous retiendrez mon idée de cadeau pour Noël. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que le livre d'Howard Zinn fasse partie des cadeaux que recevra Barack Obama à Stockholm dans 9 jours. Ça pourrait lui donner quelques pistes pour que lui et son pays le méritent vraiment, le prix Nobel de la paix.
Fucking I'm loving it. I shoveled shit on my life, and now I'm dumping it on white America. I could be one of your kids. White America. Little Eric looks just like this. White America. Erica loves my shit. I go to TRL. Look how many hugs I get. White America. I could be one of your kids. White America. Little Eric looks just like this. White America. Erica loves my shit. I go to TRL. Look how many hugs I get. Look at these eyes, baby blue, baby, just like yourself. If they were brown, Shady Lou, Shady sits on the shelf. But Shady's cute, Shady new, Shady's dimples would help. Make ladies swoon, baby.
Ooh, baby.
Look at myself. Let's do the math. If I was black, I would've sold half.
C'était la chronique lunatique présentée par Xavier chaque premier tumulte de chaque mois. Magazine Tumulte sur Radio BFM 99.9, libre et sans pub. Marc Ribot, reprise des Doors. Et dans une petite dizaine de minutes, nous recevrons Stéphane Verru, Rock Never Sleeps, mon histoire du rock à moi. 1962 et juste après, nous recevons Stéphane Véru. Patti Smith pour saluer l'arrivée de Stéphane Véru au micro de Tumulte sur Radio PFM. Stéphane Véru avec qui nous allons parler de sa nouvelle création Rock Never Sleeps, mon histoire du rock à moi, c'est le sous-titre. Création qui sera présentée au Théâtre d'Arras les 3, 4 et 5 décembre. Salut Stéphane. Patti Smith, Stéphane, oui. Est-ce que c'était honneur un hasard?
Non. Non, honneur aux dames, grande chanteuse et un morceau des Stones. Bon, voilà, c'est une façon de mixer comme ça les reprises. Et en écoutant le Patti Smith, me disait c'est quand même curieux. Patti Smith est assimilée à la vague punk qui a tellement craché sur les Stones entre autres. Et la boucle est bouclée d'une certaine manière et Joe Strummer a chanté avec Johnny Cash. Voilà.
Alors, en tout cas, dès les premières mesures, bon, évidemment, on entend le Gimme Shelter des Stones, ouais. Mais dès qu'il y a la voix de Patti Smith, quel bonheur.
Ah oui, alors ça.
C'est toujours
un. Ouais, non, c'est un disque absolument magnifique. Ouais.
Alors, Stéphane, tu étais au micro de PFM il y a à peu près 2 ans.
Oui.
Et c'était pour présenter.
La maquette.
La maquette de Rock Never Sleeps, mon histoire du rock à moi, qui a été présentée en chantier, on peut dire ça,
ouais,
au Théâtre d'Arras.
Oui. Et on a perdu un an parce que. Bon, entre la maquette et la création, il devait y avoir une saison et on a eu beaucoup de soucis pour trouver des partenaires, des coproducteurs. On avait 10 dates, on trouvait que c'était pas assez, donc on a tout reculé d'un an et on est toujours à 10 dates. C'est pas exactement les mêmes, mais voilà, c'est un projet qui intéresse beaucoup de gens et les programmateurs sont extrêmement frileux, alors que le public est absolument... enchanté par ce qu'on lui propose. Mystère.
Alors, 10 dates, dont celles d'Arras, qui ne sont pas l'inauguration de la création, déjà présentées.
Oui, on a joué 3 fois en banlieue parisienne, 2 fois à Châteauroux, et là on arrive, on revient à Arras, parce qu'on était quand même en résidence pendant 10 jours, au mois de novembre, et on est bien content de retrouver le théâtre à l'italienne. Il faut dire tout de suite aux gens qui nous écoutent que la soirée de jeudi est complète. Mmh. Mais il reste des places pour samedi et pour vendredi et samedi.
D'accord. Alors, bon, tu l'as dit, l'accueil du public pour les premières représentations, formidable.
Ah oui, moi j'avais des inquiétudes sur la longueur, parce que la soirée, c'est pas loin de 3 heures de théâtre et de musique. Ouh là là, comment ça va réagir? Et les gens ne veulent pas partir. Ils en redemandent et on rejoue. C'est formidable.
D'accord. Alors, depuis la présentation de Rock Never Sleeps en chantier, bon, il y a eu le processus que tu as décrit rapidement, des difficultés pour que la création ait réellement lieu. Mais je suppose que tu as retravaillé aussi le spectacle. Je dis spectacle, je ne sais pas s'il faut dire théâtre, musique, c'est...
Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais on s'en fout. Hein, voilà, c'est une soirée ouais, qui oscille entre théâtre et concert. Et ça commence par du théâtre, ça finit par du théâtre. Et au milieu, il y a du concert, on va dire ça comme ça, pour aller vite. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a eu l'arrivée de 2 femmes. Je voulais absolument dans cet univers de brut là, je voulais 2 femmes et puis j'ai étoffé le répertoire, j'ai retravaillé le texte et heureusement j'ai gardé la même équipe de musiciens, ce qui est très important parce que c'est vraiment des pointures.
Alors tu parles de l'arrivée de 2 femmes, tu parles de musiciens, ce sont 2 femmes musiciennes, de chanteuses.
Alors,
des comédiennes.
Là je suis quand même très très fier de moi, parce que une des 2 femmes est comédienne mais excellente chanteuse, et l'autre est aussi très excellente comédienne. Et l'autre est excellente comédienne et batteuse et excellente chanteuse aussi. Donc voilà, il n'y a que moi qui ne chante pas du coup.
Alors, on reviendra sur les noms des musiciens, des comédiens, enfin bon...
Avec plaisir, oui.
Hein, il faudra, ouais, évidemment tous les citer. Mais bon, L'objet un petit peu Rock Never Sleep, mon histoire du rock à moi, bon, le sous-titre dit un peu ce dont il s'agit. La démarche, en fait, pourquoi tu avais envie de présenter ton histoire du rock?
Ben, parce qu'à un moment, metteur en scène cinquantenaire qui a connu des bonheurs divers dans son parcours, metteur en scène cinquantenaire, il s'assoit un jour, il commence à réfléchir, à savoir un peu où il en est. Et il y a une idée qui lui vient, c'est de parler d'un truc qui lui tient à cœur, qui est sa culture d'origine, qui est une culture très populaire, qui, de mon point de vue, l'avènement du rock est sûrement une des grandes révolutions culturelles du monde occidental de l'après-guerre. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à se faire du plaisir et qu'on pouvait parler de l'émergence de cette culture populaire. Je crois que c'est la première culture, la première émergence comme ça d'une culture de masse qui vient vraiment d'une génération de jeunes pour des jeunes. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour la BD. Où il y a, bon, il y a des espèces de pères qui créent des héros de bande dessinée, alors que là, alors il y a évidemment, quand on remonte en arrière, il y a Mozart, il y a Rimbaud, mais c'est des cas comme ça très très isolés, alors que là on a une espèce d'émergence de masse, alors qu'on va pas comparer forcément à Mozart et à Rimbaud, mais on s'en fout, ça c'est une génération qui commence à parler, alors c'est forcément relayé par une autre grande révolution qui est là. La révolution des moyens de communication, de diffusion. Mmh. Hein, on passe de la TSF au transistor, on passe de rien du tout à la télé en noir et blanc, à la télé en couleur, le câble, etc., etc. Jusqu'à Internet aujourd'hui.
Et la musique enregistrée.
Bien sûr. Ouais. Évidemment. Et moi, voilà, j'avais envie de parler de ça de façon très simple, et en évoquant des souvenirs, et puis en pointant du doigt comme ça, deux, trois trucs, et puis en rendant hommage aussi à des gens qui n'ont pas eu la chance des Stones ou des Beatles. Bon, ouais. C'est encore autre chose.
C'est amusant la manière dont tu parles de la chose. Tu parles un peu de ta culture d'origine, culture populaire. Ouais. Donc on sent bien que c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi et donc qui a aussi suscité un peu ton travail en théâtre, mais on a le sentiment que là cette fois-ci tu l'assumes, quoi.
Ouais, complètement, oui. Non, mais c'est une culture qui m'accompagne depuis que j'ai 9-10 ans, et elle m'accompagne, elle m'aide. Des fois quand j'ai un coup de blues, je mets tel ou tel morceau.
Au-delà de l'accompagnement quotidien, est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, cette culture musicale, elle a aussi influencé ta création théâtrale?
Non.
Alors, peut-être pas directement,
tu penses... peut-être indirectement, mais...
Au moins, elle est en résonance ou...
Oui, elle est en résonance. Mais il me semble que, enfin, ce que j'avais envie de dire, et je le dis peut-être pas assez dans le spectacle d'ailleurs, parce que j'ai pas envie d'être didactique ou pédagogique ou je sais pas quoi, mais c'est une musique qui a été souvent porteuse d'idées nouvelles ou qui a accompagné des mouvements de société ou elle a pas forcément initié les choses, mais elle a toujours été comme ça, d'une manière... de manière générale, elle a souvent été à la ancrée dans le réel, le social. Alors c'est très curieux parce qu'il y a des chansons qu'on considère comme des petites chansons d'amour, comme je sais pas moi, Stop in the Name of Love des Supremes, qui est en fait une chanson qui parle des problèmes raciaux aux États-Unis. Il y a ce morceau de Sam Cooke qui vient d'être pris récemment, là. Je ne sais plus le titre.
Je ne saurais pas t'aider.
Les temps vont changer. Quelque chose va changer. Qui est évidemment Bon, il y a Dylan, le début de Dylan, y a, mais le, enfin, les punks, c'est ça aussi. Hein. Mmh. Et... Alors, ça n'a rien révolutionné. Ça a juste sûrement changé un tout petit peu notre façon de voir le monde. C'est déjà pas mal.
Ouais. Alors, on va écouter les Pretty Things, et là, tu vas les présenter, hein, puisque toute la programmation musicale, c'est la tienne.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu dis sur ce qu'on va écouter, là ?
Les Pretty Things, c'est très curieux, parce que moi, la première fois que je les ai vus, ça devait être en 74, je me suis endormi. Je devais être fatigué, je sais pas. Le souvenir que j'ai de ce concert, c'est que... Il y a un musicien qui s'appelait... Il s'appelle toujours, d'ailleurs, Dick Taylor, et qui était à l'origine, qui était très, très, très proche de Brian Jones, qui a joué avec les Stones au tout début, et qui a entendu les Pretty Things, qui a dit, moi, je vais jouer avec eux, c'est parce qu'eux sont beaucoup mieux. Il est allé jouer avec les Pretty Things, et un très bon guitariste. Et il a été viré des Pretty Things, parce que, je sais pas, peut-être qu'il buvait trop, j'en sais rien. Et moi, quand je les ai vus la première fois à Bruxelles, il était rôdi et il accordait les guitares. C'était assez... C'est terrible à voir. Et je les ai revus, les Pretty Things, il y a 2 ans à Marcq-en-Barœul. Et Dick Taylor, de nouveau, jouait. Et il jouait magnifiquement bien. Et ils ont commencé par un hommage à Bo Diddley qui venait de mourir. C'était absolument magnifique.
If it's my time, why am I sad? If it's my time, why aren't I glad? Should the grass grow all under my feet? If it's my time, my time, my time. If I had you, had you for my own, would you love me? Would you need me now? Would I want you for my own? If it's my time, my time. If it's my time, if it's my time. If it's my time, if it's my time. My time. My time, my time. If I loved you, would I be so cool? Would I stand there looking at you this way? If I needed one ray of sunshine now, be it my time, my time, my time, my time. If I took you for my own, would you help me reach the top? Can we climb now, keep on going up, and make it our time, make it our time, make it our time, you keep on making it our time, give me help.
Les Pretty Things, nous sommes en compagnie de Stéphane Véru, nous parlons avec lui de sa création Rock Never Sleeps, mon histoire du rock à moi, qui sera présentée au Théâtre d'Arras les 3, 4 et 5 décembre, en redisant que la soirée du jeudi est déjà complète. Hein,
oui.
Ce qui marque déjà l'engouement du public arrageois.
Bah, je crois qu'il y a une vraie curiosité, et puis bon, alors, peut-être le fait que bon, je travaille à Arras depuis un certain nombre d'années maintenant, et qu'il y a des gens qui aiment bien suivre mon travail, mais je crois qu'il y a une vraie curiosité pour cette proposition.
Tu l'expliques comment ?
Je crois que c'est une proposition entre guillemets culturelle, parce que le mot culturel, bon, c'est compliqué, hein. Mais c'est une proposition, comment dire, cette culture touche maintenant 3 générations, grosso modo. Et je parlais tout à l'heure des moyens de diffusion, etc., etc., etc. Pour donner un tout petit exemple, on jouait à Châteauroux la semaine dernière, et dans le spectacle, je fais une espèce de quiz, de petit jeu avec le public, où je balance des riffs comme ça, des intros de morceaux plus ou moins connus. Et puis, bon, le public essaye de deviner ce que c'est. Et il y a un gamin de 13 ans qui a trouvé les Yardbirds. Alors là, je suis quand même tombé un peu sur mon derrière. Et il en a trouvé un autre, je ne sais plus quoi. Mais c'était deux trucs extrêmement pointus. C'était à peu près le seul. Enfin non, c'était le seul à trouver. Ça veut dire que aujourd'hui, avec Internet, YouTube, etc., etc., les beaucoup plus jeunes, entre 13, donc maintenant, moi je mettais la fourchette entre 16 et 22, mais visiblement, à partir de 13-14 ans, déjà, il y a des gens qui sont extrêmement curieux de ça. Ils vont farfouiller sur Internet, ils se passionnent pour cette période qu'ils n'ont pas connue, bon, ils ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents éventuellement, je ne sais pas. Et du coup, cette culture touche énormément de gens.
Ça devient une culture commune, transgénérationnelle.
Ah oui, complètement transgénérationnelle, oui.
On ne parle plus de musique des vieux et musique des jeunes.
Ben, il se passe un truc que moi, je vais essayer d'analyser, peut-être, je ne sais pas, mais que je trouve assez passionnant, évidemment, parce que ça touche ma jeunesse. Alors, forcément, si des gamins de 13 ans s'intéressent à ça, ça me touche, forcément. Et je crois qu'effectivement, y a quelque chose d'éminemment populaire et d'éminemment transgénérationnel dans cette affaire.
Alors, ce qui fait, Stéphane, que mon histoire du rock à moi, hein, c'est le sous-titre du spectacle, c'est plus simplement ton histoire. C'est une manière d'aborder quelque chose qui est un lien commun.
Oui, je vais dire un lieu commun sûrement, mais sur un plateau de théâtre, à partir du moment où on parle de soi au plus profond, au plus simple, au plus sincère, on touche à l'universel, entre guillemets, hein, avec des minuscules, quoi. Et moi, ce que je raconte, je crois que tout le monde l'a vécu, d'autres anecdotes, d'autres douleurs, et je crois que les jeunes peuvent aussi transposer avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, ou se dire, ah, tiens, c'est marrant, parce qu'à cette époque-là, ouais, il fallait mettre... pour avoir la radio, il fallait qu'il y ait une prise de courant. Ah oui, le transistor, c'était une révolution. Bon, finalement, c'est pas si vieux que ça. Hein. Le transistor, c'est début des années 60, fin des années 50, quoi. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et y a tous ces moyens de diffusion, comme ça, de la culture qui sont mis en jeu. Et voilà, je crois que ça parle à tout le monde. Et... oui, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ?
Eh ben, tu vas nous présenter le morceau suivant. Tu as choisi Bob Dylan.
Ah oui, un grand bon monsieur. À qui je rends hommage, évidemment, dans le spectacle. Parce que voilà, bon, il n'a pas loin de 70 ballets. Moi, je l'ai vu récemment, en concert. Je trouve son dernier album absolument magnifique. Et il nous a tellement apporté... tellement apporté. On sait même plus que All Along the Watchtower, c'est du Bob Dylan. Alors là, ça s'appelle Lovesick.
I'm walking through streets that are dead. Walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wired. And the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window. I watch them till they're gone, and they leave me hanging on to a shadow. I'm sick of love. I hear the clock tick. This kind of love, I'm lovesick. Silence can be like thunder. Sometimes I wanna take to the road and plunder. Could you ever be true? I think of you. I'm sick of love. I wish I'd never met you. I'm sick of love. I'm trying to forget you. just don't know what to do. I'd give anything to be with you.
Bob Dylan sur Radio PFM, nous sommes avec Stéphane Véru, Rock Never Sleeps, mon histoire du rock à moi, les 3, 4 et 5 décembre au Théâtre d'Arras. Vous choisirez le 4 ou le 5 puisque le 3 est complet. Stéphane, Bob Dylan, encore un mot ?
Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu ses mémoires, là, ce qui s'appelle Chronicles.
Il y a deux tomes pour l'instant, c'est ça ?
Bah, moi, j'en ai vu qu'un. Il y en a peut-être deux. Je retourne au magasin pour voir. Donc, j'ai lu le tome 1. On attend la suite, effectivement, de toute manière. Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui n'écrit pas avec ses pieds. Et deuxièmement, moi, ce qui m'a énormément touché dans ce bouquin, c'est qu'il passe un temps fou, mais c'est plus de la moitié du bouquin à parler de tous les gens qui l'ont inspiré. Dylan, ça vient pas de rien, ça vient pas de nulle part, c'est pas un truc comme ça. Et c'est très très beau, c'est très émouvant la façon dont il parle de... Alors ça va de Hank Williams à Nina Simone, en passant par Roy Orbison, Johnny Cash et plein d'autres moins connus. Et c'est vraiment très très beau, ça. Et pour moi, Bob Dylan, c'est un peu l'anti-Elvis Presley. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce jeune homme qui un soir à Memphis en fin de journée comme ça se décide de s'amuser avec un vieux morceau de Crud Up, It's All Right My Mama, et qui devient très vite une espèce de phénomène qui s'appelle Elvis Presley. Et qui, au bout de quelques années, fait son service militaire et finalement devient une espèce de caricature même de son pays, avec tout ce qu'il y a de ridicule et de consternant dans les États-Unis. Là, en l'occurrence, c'est la boulimie et les costumes à paillettes, quoi. Mmh. Et Dylan, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est quelqu'un qui creuse tout le temps, qui va chercher dans toutes les racines très profondes du peuple américain, nord-américain. Et voilà, moi je trouve ce parcours absolument magnifique. Et en plus, là, je l'ai vu récemment à Paris et c'est très, très, c'est très curieux la façon dont il massacre ses propres classiques.
C'est pas révoltant pour quelqu'un qui assiste à un concert.
Moi je trouve ça extrêmement vivant. Moi j'ai quitté le concert là, sur le Palais des Congrès à Paris. Et alors je sortais de la salle et à côté de moi il y avait un couple de soixantenaires. Et le monsieur disait à son épouse, ah, c'est quand même dommage qu'il joue pas ses anciennes chansons. Et... Moi, je voulais pas trop me mêler, mais j'aurais dit, écoutez, il a quand même chanté quelques-unes. Hein, moi, j'en avais repéré 6 ou 7. Et eux, visiblement, le monsieur, il m'a dit, ah bah, oui, une ou deux, mais ils n'avaient absolument pas reconnu, like Rolling Stone, Highway 61, etc., etc. Et moi, je les reconnaissais parce qu'au bout, au bout d'une trentaine de secondes, je me disais, ah oui, c'est ça, en fait, qui joue, là. Mais je trouve ça très bien, moi. Je trouve ça très très bien. C'est le contraire de la sacralisation et de... Mmh. On va pas à la messe, quoi. Non, je trouve ça très très bien. Et son dernier disque est magnifique. Bon.
Alors, Rock Never Sleeps. En fait, c'est ce titre-là.
Oh, c'est un clin d'œil à Neil Young. Mmh. Son album qui s'appelle Rust Never Sleeps. La rouille ne dort jamais. Bon, voilà. J'aime beaucoup Neil Young. Donc, je lui fais un petit clin d'œil de loin.
D'accord, alors bon, on a dit, on ne sait pas trop ce que c'est, Rock Never Sleeps, c'est théâtre, musique. Alors il y a de la musique, donc tu as invité des musiciens, enfin invité, ils font partie du spectacle. Hein,
ah oui, complètement. Oui,
et
oui.
Et tu n'as pas choisi n'importe quel musicien.
Il y a une rythmique absolument magnifique, c'est Jean-Luc Ponthieu à la basse, contrebasse et violoncelle quelquefois, Jacques Mailleux à la batterie. qui chantent également beaucoup dans le spectacle.
Deux musiciens qui sont plutôt dans l'univers du jazz, mais qui ont une culture rock en même temps.
Oui, c'est ça. Ouais. Jean-Luc a commencé par le rock pour aller vers le jazz, et Jacques a commencé par le jazz, et puis c'est quelqu'un qui est très transcourant. Il le revendique. Il fait aussi du musette de façon absolument magnifique, d'ailleurs. Mais ils ont comme ça une connaissance musicale qui est très très large et très très riche pour nous. On a Christian Vasseur qui est à la guitare solo, Didier Piéton qui était un des membres fondateurs, je crois, de Artzoid, qui est au sax, qui joue également de la un peu de clavier, de l'accordéon. Et puis Pierre-Damien Castelin qui est au clavier et aux guitares aussi.
Alors tu as parlé de comédienne chanteuse, chanteuse comédienne. Alors leur place
c'est pour moi c'est fondamental parce que voilà, quand on a fait la maquette pour des raisons de planning, pour des raisons techniques, il pouvait pas y avoir de filles avec nous. Et là, je voulais absolument qu'il y en ait parce que c'est il y a des figures emblématiques très très fortes, des figures féminines dans l'histoire du rock. Alors, il n'est pas question non plus de faire une reprise de Janis Joplin, ce qui serait complètement casse-gueule et pas forcément très intéressant. Mais faire chanter London Calling par une nana, je trouve ça très très bien. Et donc ça c'est Gaël Fraisse qui chante également du Patti Smith d'ailleurs, et Patricia Peck-Mézian a quelque chose d'extra. Enfin, ce sont deux comédiennes qui travaillent souvent avec moi, hein. Patricia jouait Phèdre, Gaël Fraisse était dans les derniers Beckett que j'ai monté, elle était également dans le Pourfaire que j'ai fait. Patricia, je l'avais déjà entendu chanter, je me dis oulala, là il y a quelque chose, et je préfère probablement une comédienne qui sait chanter qu'une chanteuse qui pourrait essayer de jouer la comédie. Et je suis ravi parce que quand je vois comment toutes les deux sont accueillies par quelqu'un comme Jacques Mailleux, je me dis que je ne me suis pas tout à fait trompé sur la distribution. Et ça me fait énormément plaisir, ça.
Alors il faut quand même dire aux auditeurs qu'il faut qu'ils aillent voir ce spectacle et qu'ils écouteront quasiment un concert en même temps.
Ça commence, il y a un prologue d'une petite demi-heure qui est beaucoup plus théâtrale. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où les musiciens arrivent, il y a une force, une puissance de la musique qui fait que... comédien, je peux juste faire les enchaînements et ça suffit. En même temps, ça reste assez sportif comme spectacle, mais c'est quand même 3 heures sur scène. Mais c'est ce que je dis d'ailleurs à un moment dans le spectacle. C'est le rôle principal, c'est le rock, c'est pas moi.
Ouais. Alors dans la version chantier, oui, qu'on avait pu voir à Arras, il y avait l'interprétation d'un morceau de King Crimson.
Ouais.
Je l'ai gardé en mémoire.
Ouais.
Toujours dans le.
Ah, toujours. Ouais, ouais, bien sûr.
King Crimson, pour toi aussi, une référence
Oui, parce que moi, j'ai découvert ce groupe au tout début, là, avec le premier album. Et je les ai suivis très, très longtemps, y compris quand ils ont fait des conneries, parce que ils ont été contaminés aussi par le. Une espèce d'embolie gazeuse du prog rock qui était quelquefois extrêmement prétentieux. Mais il y a eu cette trilogie absolument sublime avec, dans l'ordre, je ne sais plus, Lark, Stong in a Speak, Starless and Bible Black et Red, qui sont 3 albums absolument magnifiques. Et Fripp est de toute façon un grand bonhomme. Je veux dire, il a travaillé avec plein de gens, il a produit Robert Wyatt, il a travaillé avec Bowie dans les meilleures années de Bowie, j'ai envie de dire, et puis il continue, King Crimson continue sous une autre forme, et ça reste très intéressant, très 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 intéressant.
Alors, autre référence, Kevin Coyne, on l'écoute, ah oui, alors... on l'écoute et tu en parles après.
Oui.
It was a night in South London when it was rain and snow. It was dark by the common and you had no place to go. Your little oriental eyes were shining at me as I walked up to you. You said, if you can help me, give me some money, if that's all you can do. I love you, Miss Tiger Lily. I need you, Miss Tiger Lily. I love you, Miss Tiger Lily. We went back to my flat, it was warm and hot inside. You were so lovely, smiling, so grateful. I said I was kind. We spent the night together. It was a perfect night of love. Every night I think of you. Lately I pray to the stars up above, come home. I love you, Miss Tiger Lily. You might return someday. You remember the warm coffee in the morning and the warmth of my loving smile. I wish you would come home once more and give me that oriental smile, because I love you, Miss Tiger Lily. I love you, Miss Tiger Lily. Love you, Miss Tiger Lillian. I love you, Miss Tiger Lillian. I love you, Miss Tiger Lillian. Always love you, Tiger Lily, Lily, Lillian.
Rock Never Sleep, mon histoire du rock à moi, au Théâtre d'Arras les 3, 4 et 5 décembre, mais il vous reste des places le 4 et le 5, le 3 est complet. Stéphane Verru avec nous. Alors Stéphane, Kevin Coyne.
Ah, Kevin Coyne, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis très très longtemps, depuis son premier double album chez Virgin et voilà, je l'ai suivi tant que j'ai pu. Je l'ai vu 3 fois et c'était à chaque fois très 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 fort. C'est le Dylan du pauvre un peu, Kevin Coyne. Et Jacques Mailleux et moi, j'ai rencontré Jacques il y a une vingtaine d'années. Et moi j'étais assistant sur un opéra jazz. Et pendant les balances... J'étais très étonné parce que Jacques chantait 6 songs de Robert Wyatt ou alors du Kevin Coyne, je ne sais plus quel genre, House Upon the Hill, je ne sais plus, enfin peu importe. Et forcément ça crée des liens, j'ai le vote, tu t'aimes bien Kevin Coyne et tout ça. Et il a une passion comme moi pour Kevin Coyne. Et on a d'ailleurs un projet un peu secret comme ça de faire un spectacle entier. On pourrait faire un spectacle entier sur Kevin Coyne qui malheureusement nous a quitté en 2004 et qui est typiquement le type de grand artiste qui a été rejeté par le système d'une certaine manière. Il a été viré par Virgin et continuait à produire des disques en Allemagne, mais d'une manière assez confidentielle. Et c'est, je crois que c'est vraiment un des tout grands artistes rock depuis 1900, fin des années 60, quoi. Et d'ailleurs, il est revendiqué par pas mal de grandes figures du rock. Mais c'est toujours un peu chier, ce genre de truc, quoi. C'est comme Nick Drake, qui a dû vendre, 33 tours de son vivant en France. Et maintenant, il n'y a plus une critique, soit dans Télérama ou dans les Rock'n'Folk ou je ne sais pas quoi. Je me dis, une espèce de mélange entre Nick Drake et Machine ou machin. Et Nick Drake, lui, s'est suicidé. C'est un autre choix. Kevin Coyne est mort. Il est mort jeune, mais de maladie. Mais c'est toujours un peu... Ça arrache un peu les tripes, ce genre de truc, quoi. Alors Kevin Coyne, il est extrêmement prolixe et il y a des choses tellement belles et puis ses textes sont magnifiques. Là, c'est pas Sugar Baby Love, hein. C'est très très fort. C'est de la critique sociale. Alors ça peut être des histoires d'amour aussi, mais c'est pas Love Me Do, quoi.
Betty Lavette, alors c'est ton choix suivant, parle-moi un peu.
Moi, je la connais très peu, Betty Lavette. C'est un peu la même chose, enfin non, c'est très différent. Ça fait partie de ces grands artistes des années 60. Elle, c'est Rhythm and Blues, hein, c'est des gens qui ont traversé des déserts. Et comme Roy Orbison a pu traverser des déserts avant d'être... reconnu par des gens comme Costello, Tom Waits, Bono, et j'en passe, et Springsteen, et d'avoir une très belle fin de carrière avec toute la reconnaissance qui lui était due, ou comme Cash, d'une certaine manière aussi. Mm-hmm. Alors bon, et Betty Lavette, c'est un peu ça, elle a sûrement moins de notoriété que Cash ou Orbison que je viens de citer. Et ce qui me fait très plaisir là, c'est il y a quelques mois que j'ai pas écouté le CD. Donc là, je vous demandais de passer la première plage parce que de toute façon l'album est magnifique. Mais ce qui me touche, c'est que cette bonne femme a été redécouverte en grande partie grâce à un type pour qui j'ai une grande admiration qui s'appelle Joe Henry. C'est presque celui qui joue au football avec ses mains là. C'est enlever le L et puis c'est bon. C'est un très grand chanteur et surtout un très très bon producteur. Enfin, surtout aussi un très très bon producteur. Et il a été recherché Betty Lavette et également Solomon Burke qui est un monstre de la. Enfin, un monstre. Oui, il fait. Je crois qu'il chante assis parce qu'il est très très gros. Et une magnifique voix du rhythm and blues des années 60. Et je trouve ça très beau, ça des jeunes, parce que Joe Henry doit avoir peut-être une quarantaine d'années maintenant, 35 ans, c'est pour la petite anecdote, mais ça n'a aucun intérêt artistiquement parlant, c'est le beau-frère de Madonna. Mais bon, c'est vraiment pour l'anecdote, parce que ce qu'il fait n'a strictement rien à voir avec ce que fait Madonna. Et je trouve ça très beau.
C'est ton histoire du rock à toi. Hein,
ouais, oui, non, mais de toute façon, moi je m'attends à recevoir des canettes sur la tronche, c'est pas grave. Et moi je trouve ça très beau des gens comme ça. Il y a au moins une génération d'écart entre des jeunes qui vont rechercher des artistes un peu délaissés, un peu oubliés, et qui les remettent comme ça en lumière. Et bon, voilà.
On écoute Betty Lavette.
Avec plaisir.
So I'm walking through the desert and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've requested and I do not want what I have not got. I have learned so many things from my mother. Oh, see how happy she made me. I will take this road much farther. Though I know not where it takes me. I have water for my journey. I have bread and I've got my wine. No longer will I be hungry for the bread of life is mine. So I'm walking through this desert and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've ever requested. And I do not want what I have not got.
Voilà, c'était Betty Lavette. Nous allons terminer cette émission avec Stéphane Verru, avec qui nous avons parlé de Rock Never Sleep, son histoire du rock à lui. Donc au Théâtre d'Arras, les 3, 4 et 5 décembre. Et il reste des places pour le vendredi. Et le samedi.
Ouais.
Stéphane, est-ce qu'on a fait le tour des gens qui sont présents dans le... On a cité tout le monde ?
Oui, il y a une équipe technique qui est assez formidable. Mathieu Chappé qui s'occupe du son, et c'est un énorme travail dans ce type de projet. Nathalie Perrier qui a créé des lumières qui sont un habile mélange de lumière de théâtre et lumière de concert. Maxime Midière qui jongle avec des minuscules caméras et qui nous propose des images agrandies comme ça, des gros plans sur certains, bon, sur, je sais pas, sur la batterie, sur les doigts du bassiste ou sur le clavier, c'est très beau. Et je crois que j'oublie personne. Caroline Liénard qui s'occupe de l'administration et c'est pas rien.
Alors Stéphane, Rock Never Sleep est donné au théâtre, à l'italienne.
Ouais.
Est-ce que c'est le type de salle dans lequel vous avez joué précédemment pour Rock Never Sleep ? Et est-ce que ça te paraît un bon choix ?
Bon, on a joué en région parisienne dans une salle d'une architecture beaucoup plus récente. On a joué à Châteauroux dans une salle un peu roots. Un peu grosse MJC avec un rapport au public comme ça, très, très, très simple, très direct. Et le théâtre à l'italienne, quand je vois les images, j'ai pas vu le film, j'en ai vu des extraits, mais quand je vois Shine a Light de Martin Scorsese, c'est un concert des Stones d'il y a quelques années, quand je vois les Stones dans des dorures comme ça, qui sont théâtre, il ressemble un peu à un théâtre à l'italienne. Mmh. Il dit que pourquoi pas. Je veux dire, moi, je me souviens des premiers concerts dans les églises à la fin des années 60. C'était plus étonnant. C'était plus iconoclaste.
On se quitte avec Jimi Hendrix. Un mot sur Jimi Hendrix, très vite, Stéphane.
Ben oui, j'aurais pu le voir parce que il est passé. Il est passé près de chez moi dans une petite boîte en Belgique. Je ne pouvais pas y aller parce que j'étais trop jeune. Bon, voilà, j'ai toujours regretté ce moment.
Stéphane, salut et bon spectacle donc jeudi, vendredi, samedi.
Merci. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will ever.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à minuit 30. À la semaine prochaine. Salut.